plus ou moins déclenché.
Ça aussi.
Moi, je vais charger, normalement, il doit marcher.
Là, le micro est là. Il se mettra à ma place.
Non, mais je vais l'enlever, moi, le micro. Je vais... Tu sais, j'ai mis ce truc-là, c'est plus doux. Et je vais le prendre
là,
avec
là.
Ça.
Voilà.
Là, on va enlever ça, c'est rien.
Voilà. Bon, merci, c'est bon.
Et je le mets entre nous deux, comme ça. Ouais. Je vais... Parce que ça est posé sur ton truc, ça fait moins de problèmes.
Bonne nouvelle, je vous donne ça, c'est bon pour nous voir les premiers.
Qui se peut qu'ils se mettent en balle, par contre.
Ouais. Bah, du coup,
normalement.
Bah, au cas où ça se met en place, oui. Tu appuies sur le bouton, la tranche.
La tranche au milieu, d'accord. Ben, ça, on peut le mettre, tiens. Si on le dérange. Il faut mieux le mettre comme ça. Voilà.
Non, mais je ne crois pas qu'il se mette en veille parce qu'il est,
oui,
il est en il tourne, donc c'est pas mal. Ben, c'est bon, tout marche. Bonjour Françoise.
Est-ce que les piles mortes, vous les mettez dans un endroit à part? Parce que c'est peut-être mieux que vous avez, on va les confondre. Alors on les met dans le... Oui. Oui, mais ça se teste. Alors, il m'a dit, c'est là que je marche. Quand il aura fini...
Je vous remercie.
Bon, je mets ça plus par en dessous.
Oui, oui, oui. Alors, tu mets là, tu te mets bien, puis tu repasseras derrière moi après. Ouais, 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 ouais. Oui, oui, bien, mais on le pose là parce que c'est bien mieux à la main.
Ça. 1, 2, 3. Bon. Bonjour. On va donc commencer. La conférence qui va avoir lieu est sur l'écran. On va attendre que tout le monde entre. Bon, je continue. Alors donc, quelques nouvelles. D'abord, une bonne. Claude Alsac, qui avait eu un grave problème cardiaque, qui avait nécessité un départ d'Orléans en hélicoptère, eh bien, il s'en est bien tiré et il devrait sortir demain du nouveau CHU d'Orléans, le CHU depuis quelques jours, si j'ai bien compris. Donc, de ce côté-là, c'est une bonne chose. Et ça arrête un peu la série que nous avions connue l'an passé. Sur aujourd'hui, j'ai, hors cette bonne nouvelle, une chose que j'ai oubliée, c'était l'affiche pour le report du 5 décembre. Donc, vous l'aurez très vite dans les jours qui viennent par la liste. Je vois ça avec Marie-Thérèse et on va régler, et Colette, et on va régler ce problème. Je rappelle que la Corfi est une association qui a pour caractéristique d'avoir on prend les adhésions à partir de septembre. On a même décidé depuis cette année qu'elle compterait à partir de fin août. C'est pour des questions de comptabilité, c'est pas autre chose. Et donc, si vous avez omis de payer votre adhésion, c'est le moment ou jamais, ou bien pour la prochaine fois en tout cas. Néanmoins, les chiffres sont bons. On va essayer d'avoir un tableau qui tiendra au courant de l'évolution des chiffres pour faire des comparatifs avec les années qui vont venir. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire de spécial, ou de pas spécial d'ailleurs. Ah oui, si. Je reviens. Je vais essayer de bloquer la chose. Donc, le voyage en... Oui, c'était le sujet principal, mais il était en dessous de la pile. Vous voyez, je suis un peu fatigué actuellement. Donc, le voyage à Naples est repoussé à l'automne. Il y a eu pas mal de problèmes liés à trouver un hôtel convenable. Et assez vite, je vais arrêter l'écran, ça sera sans doute plus simple. Et assez vite, vous avez donc noté les nouvelles dates. C'est pas en 2004, hein, c'est bien du 7 au 14 octobre prochain. Vous recevrez le guide, le programme plus exactement, demain sans doute. On a encore des petits trucs à régler avec Tristan, mais bon, c'est assez secondaire finalement, c'est de changer un jour, quelque chose qui est un jour, on a demandé autre chose, ça se fera, puis ça se fait pas, c'est pas un drame. Alors donc, les dates, cette fois-ci, on a un hôtel qui nous paraît correct. On avait eu un hôtel pour le mois de mai qui était contre la trois voies qui va vers le Vésuve. On était même en dessous du Vésuve. C'est pas pour ça qu'on n'y va pas, parce qu'on espère quand même qu'il nous fera pas de caprices à ce moment-là. Et donc, les clients, une grande partie des clients râlaient parce que s'il y avait trop de bruit. Et donc, on a demandé à changer, mais les autres n'étaient pas beaucoup mieux. Ou encore plus loin. D'ailleurs, le premier hôtel qu'ils nous avaient proposé était à 30 km et roulait à 30 km faire 30 km matin et soir vers Naples, c'est pas simple du tout. Alors là, il nous en a trouvé un deuxième, et cette fois-ci, les clients ont l'air très contents. Et on est plutôt un peu au nord, dans la direction de Caserte. Et donc, a priori, cette fois-ci, on n'a rien à en redire. Et Tristan m'a fait un courrier. Le dernier courrier qu'on a eu, en tout cas, il est là. Dans lequel il dit surtout, je rentre pas dans tous les détails. D'abord, les vols, bon, on partira cette fois-ci d'Orly, c'est une nouveauté, et c'est quand même beaucoup mieux, on va gagner beaucoup de temps. Temps de sommeil aussi, parce que le départ se ferait un peu après-midi le lundi. Et donc, effectivement, on n'aurait pas l'après-midi de libre, mais au retour, ce serait un départ du soir. Donc, ça laisserait un nombre de jours à peu près convenable. Donc, Orly, c'est une très bonne chose. Il me dit tout de même que, à ce jour, les tarifs des billets d'avion sont corrects par rapport à notre prévision. On a des prix qui seront en augmentation d'à peu près 200 euros par rapport à ce qu'on avait connu pour la Sicile. Je me suis renseigné dans d'autres agences et tous disent que ça a quand même bien monté les prix. Donc on reste sur des prix bas, néanmoins. Les billets d'avion donc sont corrects par rapport à notre prévision, mais je ne sais pas jusqu'à quand, car j'ai l'impression qu'ils montent de jour en jour. Donc, ils pensent qu'il faudrait peut-être qu'on essaie de retenir, au moins avec une petite somme, pour ceux qui sont à peu près sûrs d'y aller, dès le mois de décembre. Et puis après, on pourra abonder tout cela. Je crois qu'il n'a pas l'air d'avoir tellement tort. Ça sécuriserait le voyage, car quand je vois, comme j'étais dans la difficulté pour trouver un hôtel correct, à un bon rapport qualité-prix, je me dis que ce serait dommage que les vols soient finalement trop chers, car la destination est très prisée, les avions se remplissent rapidement. Bon, je vous enverrai tous ces éléments, je pense, demain, ou plus tard après-demain, et vous pourrez donc voir tout cela, et on va fixer peut-être quelque chose vers le milieu décembre pour faire un premier acompte qui serait de faible quantité, une somme faible. Voilà, on va y arriver. Voilà, donc j'ai pas d'autres nouvelles cette fois-ci. Vous recevrez en même temps d'ailleurs la feuille pour pouvoir venir au repas de fin d'année qui aura lieu le 5 décembre. Après la conférence, ça je l'avais annoncé, qu'a proposé notre ami Jean-Étienne, et je l'accompagnerai, sur le bon et le mauvais gouvernement de Sienne, du palais communal, et en s'appuyant sur le bouquin que Patrick Boucheron a écrit à ce sujet. Donc voilà un peu les éléments, ça c'est aussi une chose nouvelle dans les conférences. Pour Frulio, qui a dû passer aussi, elle va arriver après, elle affiche, donc Pinocchio, une métamorphose énigmatique, par Valentina Frulio. Je l'avais entendu à la radio et c'est pour ça que je l'ai contacté. La Dante a été d'accord pour nous accompagner et donc ça sera à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts. Le 13 janvier, c'est ça. 2024. J'ai un coup de pause aussi. Bon. Alors on va maintenant passer à notre ami Alain Segal. Alain Segal qui vient depuis 13 ans nous parler à la Corfu. J'avais commencé par c'est en italien, j'ai un accent déplorable, alors je le dis quand même, I morti di Bligny, Giocano a carte. Bon. Et donc c'était de Curzio Malaparte, sur Curzio Malaparte, les morts de Bligny jouent aux cartes, pour les gens qui ne sont pas très forts en italien, comme moi. Il avait commencé très brillamment, mais il a continué après. Après, il nous a parlé du linceul de Turin, des considérations. J'ai pas dit le bon mot.
Linceul.
Je sais, mais c'est mal écrit sur le papier. Bon, vaut mieux rester décontracté. Alors, ensuite. Il nous avait parlé, alors il est parti vers l'anatomie, il est un peu rentré dans son domaine professionnel avec Vézal. Bien sûr, Léonard l'avait précédé, mais Léonard avait gardé ses carnets vers lui, et donc il n'est pas retenu par l'histoire. Et puis il n'a pas essayé de...
Écrit à l'envers.
En plus, écrit à l'envers. Bon, enfin ça, on y arrive encore, à les lire. Après, il nous avait parlé de Casanova... Et ses rapports avec la médecine, donc c'était un sujet intéressant. Ensuite, il est reparti vers l'anatomie, les leçons d'anatomie réalisées par Rembrandt. Rembrandt, oh là là, fatigue en ce moment.
Voilà donc, et il nous avait fait la dernière fois.
C'est la fistule de Louis XIV.
Ah oui, c'était Louis XIV. Un peu scabreux aussi.
Très important.
Oui, alors Alain donc est médecin, il est même spécialiste, il est gastro-entérologue, il est membre de la Société française d'histoire de la médecine, qu'il a présidé, c'était en 2002, au moment où il a fêté son centenaire. Et il y a encore ton discours qui est sur le web, si vous cherchez Alain Segal, Société d'histoire de la médecine, et on voit un beau discours pour un centenaire, on ne peut pas faire autrement que faire un brillant discours. Voilà, donc, alors, les deux dernières conférences ont été un peu reportées, à cause du Covid la première fois, et l'an dernier, c'était plutôt pas en grande forme, et donc, mais maintenant, il a repris du poil de la bête, et je vais lui laisser la place.
Merci, mon cher Claude.
Alors, je vais relancer d'abord le... Bon, ça mérite peut-être pas d'applaudissements.
Voilà.
Qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Ça y est.
Voilà, tu mets le premier, puis après
je... Oui, ça va démarrer tout de suite. Puis je me pousse. Voilà, il est là. Bon, on est
tu restes là, puis tu appuies sur le bouton.
Non,
c'est comme
non,
tu
non,
veux.
Non,
bon,
non,
tu préfères être en image. Bon. Voilà, c'est celui-là. Voilà.
Ouais. C'est parti. Je me pousse. Je choisis des photos.
Voilà.
Avec une petite seconde, parce que j'allume quand même celui-là.
Attention, je vais te soulever le fil.
Voilà.
Voilà.
Enregistré aussi.
Enregistré.
Voilà. Bien, ben, un bonsoir déjà à tous. Voilà, je prends le micro. Bonsoir à tous. Et je pense qu'on va tout de suite aborder médecine et médecins italiens de la Renaissance et pas jusqu'au XVIIIe siècle comme ça avait été annoncé, puisque là, on a quitté la Renaissance. Alors, d'un point de vue général, on peut remarquer qu'après les guerres d'Italie débutées à partir de 1494, une période de paix relative s'installera entre les épisodes guerriers et même jusqu'au XVIIIe siècle. Et on peut dire que les trois espaces culturels et politiques que sont Florence, Rome et Venise vont se développer avec des comportements différents. Cependant, on voit naître des réflexions importantes assez européenne, sur la question de la guerre et sur le déploiement d'un après-guerre. La pensée florentine articule politique de conquête et la nécessité de conservation en temps de guerre et où l'après-guerre s'inscrit dans une tension potentielle, pratiquement permanente, entre l'impossibilité de la paix et l'acceptation de la domination politico-militaire, tandis que la pensée vénitienne tend à passer par l'éloge de la neutralité et celle de l'apaisement pacificateur des rapports de force. Proche des États du pape, Rome louvoie dans cette perspective où la paix constitue un cadre à la fois imposé et en mouvement, et la question concerne alors ce que la guerre transmet à l'après-guerre. Ainsi, même lorsque l'on fait passer les raisons de la conservation de l'acquis avant celle de la conquête, on ne remplace pas pour autant la guerre au principe de la paix, car on a cessé de penser qu'après la guerre était la paix. Bien au contraire, on a placé la guerre en principe de la paix, à l'adage bien connu, peut-être une remarque, de cet auteur du 5e siècle qui est Végès, Civis Pacem Parabellum. Reste que les divers et nombreux États italiens vont vivre et s'accommoder le mieux possible de cette période, somme toute plutôt calme pour eux, laissant le monde artistique, littéraire et scientifique de la Renaissance italienne s'exprimer. Les progrès de la connaissance en anatomie est un fait accompli dès la fin du XVIe siècle. Mais il n'en est pas du tout de même pour les autres disciplines médico-chirurgicales, car beaucoup demeurèrent à un stade rudimentaire, condamnés à souffrir longtemps encore d'un sérieux retard dans leur évolution. Néanmoins, plusieurs praticiens de la Renaissance ont su faire des anticipations parfois vraiment géniales, notamment dans l'identification, si hésitante soit-elle, des maladies infectieuses et de leur mode de transmission. Stimulés par les récentes acquisitions anatomiques, on voit apparaître des progrès en particulier en urologie, ophtalmologie grâce à l'école italo-germanique avec Mauricius Bartisch et le savant Kepler. Et vous verrez que l'obstétrique connaîtra un grand renouveau en Europe grâce à un moine italien, plus ou moins défroqué, Girolamo Mercuriale, qui par amour de la science deviendra le maître obstétricien de son pays. Mais il y a encore bien des médecins chevronnés issus d'universités déjà renommées, comme Bologne, mais aussi et surtout Padoue. Sans compter d'autres plus petites universités comme Trente, Ferrare et autres Palerme. Encore faut-il bien se mettre en tête que depuis 1494, début des guerres menées par la France en Italie, celle-ci n'est en rien unifiée car elle est bien constituée de divers duchés, marquisats, républiques, mais avec aussi les imposants états pontificaux, comprenant la Romagne, les Marches, l'Ombrie et le Latium. Puis existe au sud le royaume de Sicile, insulaire avec Palerme et péninsulaire avec Naples et les Pouilles, etc. Ainsi, nous allons traverser la période des guerres d'Italie, donnant 11 conflits entrecoupés de 10 périodes de paix, pour se terminer avec le traité de Cato-Cambrésis. Ah oui, alors là, j'ai besoin d'un peu de lumière, mais ça va aller. Bon. Pour se terminer avec ce traité de Cato-Cambrésis entre la France d'Henri II et l'Espagne de Philippe II. Guerre stérile et ruineuse pour tous. Ainsi, dans ce climat que l'on étudiera avec un certain nombre de grands médecins et ou chirurgiens de la Renaissance italienne, et un point important à souligner, c'est l'étonnante polyvalence des connaissances des médecins de cette période, car ils sont souvent aussi très savants dans bien d'autres matières. Nous allons commencer notre périple avec le Florentin Antonio Benivieni. Alors, je l'aurai toujours au moins pour vous repérer les dates de naissance. Alors, mon repère, ça a été la date de naissance. On commence avec Benivieni, qui est né en 1443 et qui est mort en 1502. Il est issu d'une bonne et noble famille florentine. C'est un érudit fin lettré qui finit par se consacrer à l'étude de la médecine sous la protection des Médicis, dont Côme l'Ancien. Puis il y aura Pierre le Goutteux. Dans la famille des Médicis, Pierre le Goutteux a été aussi protecteur. Alors, notre médecin se rend à Pise, puis à Sienne, et devient un médecin chirurgien à la réputation considérable grâce à la précision de ses diagnostics et de ses traitements, fort rationnels pour cette période. Ainsi soigne-t-il non seulement les Médicis, mais aussi les grandes familles de Florence, comme les Pazzi, les Adimari au célèbre tour, les Strozzi, vite évincés et encore bien des patients dans les couvents, divers couvents florentins. Il soigne encore Jérôme Savonarole, dont il devient l'ami et disciple. Il dédie à Laurent le Magnifique son De Regimine Sanitatis, et sont dépestés, et devient membre de la fameuse académie néoplatonicienne de Marcile Fissa. Alors ça, c'est, pour l'époque, c'était quand même une situation tout à fait enviable, parce que cette académie de Fissa, quand on pense à toutes les traductions qu'il nous a laissées, c'est assez prodigieux. Il a laissé des nombreuses études, dont notre auteur, Bénivier, et pratiqué 15 autopsies pour essayer de trouver le motif du décès. Mais c'est seulement après sa mort que son frère Girolamo fera publier en 1507 par le médecin florentin Giovanni Rosati le De Abditis Morborum Causis, sorte de premier livre de pathologie, pur ouvrage fort rare d'ailleurs, au point qu'en 1521, c'est un flamand, Rambert Dodoens, le réputé médecin botaniste, s'en est servi pour son Medicinalium Observationum Exemplar Rare. C'est-à-dire qu'il avait tiré des observations d'une grande rareté médicale et les avait publiées dans ce petit livre que je pourrais montrer à certains à la fin de mon exposé. J'ai une édition qui remonte non pas à 1521, mais à 1621, parce qu'il y a une erreur de datation. Alors, il donne des exemples tirés de Benivieni, montrant que ce dernier est l'un des pères de l'anatomie pathologique. Il cherchait à savoir, en disséquant le cadavre, finalement, ce qu'il s'était passé, et ça a été les débuts d'une science qui est devenue de plus en plus performante. Le deuxième, alors attendez que je vois si je n'oublie rien. Voilà. Là donc, phrase 14, on y vient. Le deuxième personnage dont j'évoque la vie et l'œuvre n'est pas un brillant médecin, mais aussi un philosophe humaniste, astronome, géographe et un très grand poète italien. Il s'agit donc de Jérôme Frascator, date de naissance 1478, décès en 1553. Il a étudié à la fameuse université de Bologne, puis à celle de Padoue, dans laquelle il obtint vite une chaire. Son rôle a été essentiel dans l'histoire de la Grande Vérole, car c'est lui qui a rédigé en 1521 le plus célèbre des poèmes médicaux donnant ainsi la dénomination définitive à cette terrible maladie dans son Syphilis sive morbus gallicus. Parce que la grande lutte à l'époque, c'était de dire, c'est eux qui ont eu ça en premier, alors les gallicus, c'est nous. Et puis de l'autre côté, c'était les napolitains. Ça n'a jamais cessé, alors que tout ça venait probablement d'Amérique du Sud. Mais sans qu'on ait des preuves absolues. Alors ça a été publié, son ouvrage magnifique, j'ai amené aussi un petit livre que je peux vous montrer, ça a été publié en 1530 à Vérone. C'est intéressant parce que Vérone a eu quand même été un centre d'imprimerie. Ce titre alors exhibe combien on chassait volontiers de chez soi l'origine de ce mal, car pour le monde médical français, c'était le mal napolitain. Frascator, dont le Titien a fait un magnifique portrait, que je vous montre là, parce que ce n'était pas n'importe qui, donc il pouvait se permettre de s'adresser à des grands maîtres et d'avoir donc un portrait qui est tout à fait extraordinaire. Voilà. Alors je suis assez content de vous le montrer, parce que c'est un très beau tableau. Alors, il prouve en plus que cette maladie est transmissible, mais chacun essaie d'en rejeter l'origine, bien sûr, sur son voisin, parce que ça fait vraiment des désastres dans la population. D'ailleurs, syphilis en grec signifie « don d'amitié réciproque ». Mais Frascator saura aussi considérer les autres maladies, comme la tuberculose, la lèpre ou la gale, pour élaborer une théorie sur la contagion avec la notion d'un contagium vivum. Se propageant par des organismes vivants, les seminaria contigionis, si minuscule qu'invisible à l'œil nu, autrement exprimé, l'idée du microbe. Ce qui est quand même assez étonnant. Cela fait de ce savant le père de l'épidémiologie. Le mercure est déjà requis comme une bonne thérapeutique de cette redoutable affection. En 1546, il fera exprimer son De contagione et contagiosis morbis, qui détaille mieux ses considérations sur cette terrible affection due au Treponema pallidum, seulement découvert en 1905. Mais auparavant, deux autres médecins italiens complétèrent le savoir. Niccolò Massa, 1489-1569, décrit les manifestations neurologiques, tandis que Pietro Andrea Mattioli, 1500-1577, je vais vous le montrer là tout de suite, remarquable botaniste, insiste sur le rôle bénéfique du mercure. Bon, c'était aussi une erreur parce qu'on a complètement abonné, mais très tard, hein, ça a été quasiment dans le début du XXe siècle, la fin du XIXe, début XXe, qu'on a laissé cette thérapeutique de côté, la jugeant complètement inopportune. Alors je passe maintenant sur Giovanni Battista Monte de Vérone, éminent botaniste. Ah oui, mais je vais y venir. C'est bien. Et son idée de créer un théâtre anatomique à Padoue. C'est important parce que le théâtre anatomique de Padoue, c'est une splendeur. Il faut avoir vu. C'est très important. Ainsi que la salle générale de l'université de Padoue, avec toutes les peintures montrant les étudiants qui sont passés par Padoue. Qui a surtout restauré ce médecin qui venait de Vérone, la pratique médicale de la Grèce antique en faisant connaître les textes originaux. Et ce n'est pas sans importance, parce que ça n'avait pas tout, certains, toujours été traduit. Maintenant, avec Antonio Musa Brassavola, 1555, nous sommes en présence d'un médecin naturaliste à la réputation, alors lui, considérable dans la première moitié du XVIe siècle. Il restera toujours dans le duché de Ferrare, ayant été remarquablement instruit par les médecins humanistes, Léonicette Nau, qui a fait beaucoup de traductions et qu'on retrouve dans les différents gros ouvrages de cette période, et Mainardi, et Hercule II de Ferrare le prit d'ailleurs comme médecin, même pour ses voyages. Ainsi vit-il François Ier, qui le prit ensuite comme médecin, mais d'autres souverains étrangers le consultèrent comme Henri VIII, mais encore les papes Léon X, Clément VII, Paul III et Jules III. Il a su, dans les nombreux symptômes de la syphilis, soupçonner aussi une autre affection, la gonorrhée. Alors qu'il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour faire la différenciation, puisqu'on commençait à bien reconnaître les microbes. Il réhabilita la trachéotomie et faisait des dossiers sur chacun de ses malades. Alors ça, c'est assez extraordinaire parce que ce n'était pas trop connu. Et quand il avait un malade, il prenait des notes, il gardait le dossier, il ressortait quand il avait besoin. Alors, dans le Brassavole, là, je vous ai fait une figure, parce que j'ai la chance de posséder une édition qui permet de retrouver, selon toutes les expressions hippocratiques, dans quel livre d'Hippocrate on retrouve le passage, etc. C'est un travail stupéfiant, comment des gens de ce temps-là pouvaient passer même 10, 15 ans à faire ça. C'est d'une grande utilité, et je suis très, très content d'avoir pu un jour trouver cet ouvrage. Alors, il a été aussi un botaniste de premier ordre, ayant réalisé en 1536 l'une des pharmacopées les plus importantes de la période, décrivant en rectifiant la matière médicale, c'est-à-dire l'emploi dans certaines conditions de certaines plantes pour certaines affections. En particulier, les erreurs laissées par les traductions de ce qu'on appelait à l'époque les arabistes, c'est-à-dire qui avaient traduit du grec, c'est des médecins arabes qui avaient traduit du grec, mais pas toujours parfaitement, et il y a eu des erreurs glissées. Et il y a eu des corrections faites par ceux qui étaient très savant à la fois, même en langue arabe, comme on a retrouvé certains éléments, ou souvent des médecins juifs qui, eux, parlaient fort bien l'arabe, et qui avaient et toute cette médecine grecque a fait le tour du bassin méditerranéen pour revenir par l'Espagne, parfois un peu directement vers l'Italie, la région sud. Vous voyez, il y en a eu quelques-uns. Bon. Alors, nous allons maintenant arriver à un autre illustre savant qu'est Jérôme Cardan, Girolamo Cardano. Alors, il est né à Pavie en 1501 et est décédé à Rome en 1578. Voilà, et j'ai un petit portrait de Cardan, intéressant et très joli, parce qu'on n'a que des gravures à l'époque, bien sûr, mais elles sont fort belles. Et vous avez du côté, donc, gauche, pour vous, l'un des livres les plus importants qu'il a fait. Alors, dans sa jeunesse, qui fut très malheureuse, car ce fut un enfant battu et illégitime, il fut vite célèbre cependant comme mage et astrologue, et à l'époque, ça avait une importance capitale. Mais il démontra parallèlement ses qualités exceptionnelles dans les mathématiques, théorie des équations algébriques qui deviendront les nombres complexes. C'en est lui le précurseur. Et il a été aussi très savant dans les sciences naturelles, et il a d'ailleurs fait une grande partie de ses études de médecine, d'abord à Pavie, pour passer ensuite à Padoue, où il a obtenu son doctorat en 1526. Alors qu'en 1525, ses condisciples l'avaient nommé recteur de l'université de Padoue. Ce qui est quand même lui reconnaître une science dans bien des choses très importantes. Puis c'est Milan où il enseigne brillamment depuis sa chaire de mathématiques, abordant la géométrie et l'astronomie. Mais sa vie familiale est totalement perturbée par l'attitude de ses fils, dont l'un sera décapité. On ne plaisantait pas en Italie à l'époque quand on faisait certaines choses, mais dans certaines parties, parce que c'est des duchés, des marquisats, comme je l'ai dit, il y avait des fois des peines très sévères. Seul, il saura élever son petit-fils, Fazio, qu'il aimait beaucoup. Son autre fils, Aldo, le volera et osera le dénoncer à l'Inquisition. Pour hérésie, comme d'avoir établi l'horoscope du Christ. Alors, je vous le montre, puisqu'on le voit, l'horoscope du Christ, voilà. Vous avez donc à gauche l'horoscope du Christ et ensuite un des autres livres importants, toujours de notre savant Cardan. Et on a la chance, vers les années 1550, qu'ils aient représenté parfois des appareils qu'il avait inventés et qui ont marqué aussi bien les sciences mécaniques que, c'est un savoir médical, c'est resté. Alors, dans la chose importante, il sera connu pour son fameux joint de Cardan. C'est l'ancêtre du joint de transmission, comme l'indique le De Subtilitate de 1550, dont la traduction française a été faite par Richard Leblanc. Il est tellement important, ce livre, que pour l'époque, il a été réédité 7 fois de son vivant. Il sera radié, malheureusement, de l'université de Bologne, en raison de ce qui traînait derrière ses histoires, et rejoindra Rome en 1571, se rapprochant de ses protecteurs, qui sont les cardinaux Morone, Alcia et Borromée. Il était quand même donc bien protégé. Et dans l'attente de jours meilleurs, il consulte à nouveau, c'est-à-dire il ouvre sa consultation, jusqu'à l'obtention par le pape Grégoire XIII d'une pension, et il devient agréé au Collège des médecins de Rome, où il décédera d'ailleurs à Rome, le 21 septembre 1576. Donc c'est un personnage clé dans l'histoire des médecins de la période de la Renaissance. Maintenant, il convient de considérer le rôle de celui qu'on nommait soit Vidus Vidius en latin, ou Guido Guidi, qui est né à Florence en 1509. Remarquez qu'à chaque fois, la date de naissance me fait remonter donc vers la fin du siècle, par sa mère qui était Costanza Bigordi, fille du peintre Domenico Ghirlandaio. Il reçoit une éducation artistique et son père, médecin, l'oriente dans la voie médico-chirurgicale. On ne sait pas où il a étudié et jamais il n'indiquera dans ses écrits l'endroit de son doctorat en médecine. Mais sa réputation à Florence est considérable. On sait qu'il est passé à Paris, où Vésal l'a connu comme lecteur royal, nommé par François Ier, qui le prend d'ailleurs comme médecin personnel. C'est le cardinal Niccolo Ridolfi qui attire son attention sur une collection de manuscrits grecs illustrés dus à un certain Nicétas, datant de la toute fin du IXe siècle, tout début du Xe. De cela, il établit une chirurgia imprimée à Paris par Léonard Gaultier en 1544, qui fut présentée à François Ier, et cet ouvrage est la traduction du grec en latin d'un codex byzantin de ce fameux Nicétas, entièrement consacré aux fractures et luxations. Alors, je crois que je peux vous le montrer. C'est un ouvrage absolument splendide. Alors, comme vous le voyez, en 1542, Guido Guidi, devenu premier alors médecin de François Ier, lui présenta son manuscrit avec sa traduction latine et des dessins exécutés par ses soins pour illustrer son travail. Et la Bibliothèque nationale de France possède le manuscrit latin 68-66 que l'on retrouve. Alors, est-ce que je l'ai mis ? Oui, vous l'avez. Vous avez déjà, et on retrouve un autre dessin avec, mais je reviendrai en arrière pour que vous puissiez revoir. C'est le livre de la Nationale qui est à gauche. Et vous avez déjà une figure du côté droit qui montre une façon de réduire une luxation de l'épaule en servant à la fois du... Mais c'est la méthode hippocratique, hein, mais elle est magnifiquement illustrée. Alors, maintenant, je vais revenir une fois en arrière parce que vous donnez le plaisir de revoir les illustrations ici de la réduction d'une luxation du coude. Hein, dans celle-là, donc je reviens ensuite au premier pour que vous puissiez avoir bien vu cet extraordinaire livre. Alors, on sait que cette édition de 1544 de la Chirurgia de Guido Guidi, une dernière vente, le livre a été vendu 65 000 euros. Tellement c'est un livre tout à fait extraordinaire. On a longtemps cru, peut-être pas à juste titre, que le Primatis, Francesco Primaticcio, était l'auteur. Mais on réfute ça et on pense maintenant que Francesco Rosso Salviati, déjà connu pour la qualité de ses fresques, en est l'auteur. Après la mort de François Ier en 1547, Guidi a y retourné donc en Italie en devenant le médecin personnel de Côme Ier de Médicis qui lui propose une chaire à l'université de Pise, où il s'avère un enseignant très remarqué des étudiants, tout comme d'ailleurs à la même époque le botaniste et médecin Andrea Cesalpino, qui d'ailleurs établira un répertoire des plantes d'Italie. Mais c'est aussi en Toscane que Guidi reçoit les ordres, pratiquant son art médical et son sacerdoce jusqu'à son décès en mai 1569. Alors, la personnalité suivante sera un Vénitien, Giovanni Andrea della Croce. Je vais donc passer à ce suivant, né en 1509, décédé en 1575, tellement célèbre dans la cité des Doges qu'il devint rapidement membre du collège chirurgical de Venise. Alors c'était un collège qui avait toute son importance et au début de son activité, comme beaucoup à l'époque, il rédigea sur le mal français, donc la grande vérole, dans son De Morbo Gallico, mais il était chevronné dans tous les versants de la chirurgie, ce dont témoigne aussi son autre ouvrage, qui est la Chirurgie Universalis, qui fut vite traduit en italien pour être utile aux barbiers chirurgiens. Ce que notre illustre Ambroise Paré avait fait d'emblée lorsqu'il avait rédigé ses œuvres de chirurgie. Il avait d'emblée laissé le latin de côté, c'est seulement après qu'il l'a fait remettre en latin, tandis que là, bon, c'est tout, c'est intéressant de le savoir. Les deux présentations in folio et illustrées rencontrèrent un franc succès, en particulier dans le traitement des fracas crâniens, et je vais vous montrer quelques instruments chirurgicaux de cette époque. Alors, attendez, que je crois que ça a fait doubler. Voilà, vous avez un instrument qui permet à droite de faire, si vous voulez, dans le crâne, avec cette espèce de petite scie, un orifice pour pouvoir... Alors, vous avez vu qu'à l'extrémité de l'instrument, on repère le moyen, si vous voulez, de perforer plus facilement. De l'autre côté, vous avez des instruments qui permettent de soulever l'os lorsqu'il y a eu... Parce que les guerres, à l'époque, quand on prenait un coup de massue, on était mort, ou si on vivait, c'était très enfoncé. Alors, les chirurgiens faisaient ce qu'ils pouvaient pour réduire tout ça. Avec maintenant le médecin suivant, Leonardo, alors non, c'est curieux, ça saute, voilà. Leonardo Fioravanti, lui né en 1509 ou 1515, on ne sait pas les dates exactes, mais on sait qu'il est décédé en 1585. Alors on est à la fois en présence d'un médecin et chirurgien, et même d'un alchimiste, qui exerça dans toutes les grandes villes italiennes. Lui, il passait de l'une à l'autre. Fioravanti fut l'un des rares adeptes du fameux médecin et alchimiste suisse Paracelse. Alors Paracelse, ses dates, c'est 1493-1541. Sorte de, j'allais dire, de Danton de la médecine renaissante, guidée par la seule expérience et la raison. Donc, il dit aux autres, il faut des preuves de tout ce qu'on avance, il faut essayer de voir ça de près. Laissant la théorie spéculative au profit d'une lucide pratique. Fioravanti, quant à lui, excellent botaniste et chimiste, a imaginé un baume et un alcoolat qui portait son nom, qui restera, vous entendez, jusqu'en 1949 dans la pharmacopée française, utile pour les rhumatismes et les névralgies. C'est donc un produit qui avait de grande qualité. Maintenant, on jette un regard, très volontiers, sur un personnage devenu fort célèbre, bien après sa mort, par son ouvrage « Monstrorum Historia », imprimé seulement en 1642. Il s'agit d'Ulysse Aldrovandi. Alors, je vais le... Voilà. Je vous montre parce qu'il y a un très joli portrait. Alors, Ulysse Aldrovandi a fait donc son ouvrage « Monstrorum Historia ». Il a été donc imprimé tardivement, mais ça, il est né, cet Aldrovandi, en 1522 et est décédé en 1605. Et son visage nous est connu car il a été peint par Agostino Carracci. Donc un des peintres de la lignée des Carracci. Donc un très joli portrait, et pour cause, vous pouvez l'apprécier là. Après avoir été un simple pèlerin, il alla étudier à Padoue, puis à Bologne, en 1545 d'abord, le droit, puis ensuite la médecine, mais en 1549, il est accusé d'hérésie. Il est envoyé à Rome, où il s'explique et se justifie de son comportement, cependant le fait de sa naissance dans une noble famille jouera sûrement en sa faveur. Étant retourné à Bologne en 1553, il obtient alors son diplôme de médecin tout en approfondissant ses connaissances botaniques. Alors, tout ça faisait cette réflexion que ceux qui avaient de grandes connaissances en botanisme trouvaient souvent de bonnes thérapeutiques. Et ça les poussait à avoir des connaissances beaucoup plus poussées dans ce domaine. Ils poussaient vraiment leurs connaissances à ce niveau-là de façon importante. Bientôt, il est nommé professeur d'histoire naturelle et de logique en 1560. Et il fonda parallèlement un jardin botanique dont il devint le conservateur. Donc, si vous voulez, pour la ville de Bologne, ça a été très important. Parce que le jardin botanique existe en partie, il a été augmenté, mais à la base, ça a été ce personnage-là qui l'a créé. Mais sa nomination comme inspecteur des remèdes et préparation se heurta à l'hostilité des apothicaires. Alors là, je fais une réflexion parce que cette façon de faire, c'est-à-dire d'avoir une espèce d'inspecteur, ça a été imité du monde arabe, qui eux, très tôt, ont eu des apothicaires, aussi médecins, etc., que les autres considéraient comme très savants, et ils venaient vérifier les médicaments employés par les médecins du secteur habilité. Et je crois que ça a été une très bonne idée. Dans le fond, ils faisaient une inspection qui peut exister encore, même pour les pharmaciens actuels. Mais le pape Grégoire XIII le confirma dans ce poste. Et par la suite, sa pharmacopée devint même en 1574 la pharmacopée officielle. Et il a rassemblé tout ça dans un antidotaire qui s'appelait l'Antidotari Bononiensis Epitomé, où il décrit toutes les constituants et les propriétés des remèdes, et cet ouvrage reste un modèle du genre. Et ça s'est poursuivi après, quand les médecins ont évolué, amélioré, ils n'ont fait que prendre pour base le modèle proposé par cet excellent médecin. Soutenu financièrement par le pape Grégoire XIII, il publia encore d'autres travaux d'histoire naturelle tirés de ses diverses observations journalières, comme celle des modifications de l'embryon de poulet, et cela avec des gravures en taille douce. Seulement 4 volumes seront imprimés de son vivant, car la mort survint, mais ses élèves continuèrent son travail, comme en témoignent les 10 volumes tirés de ses manuscrits. Donc il a fait une œuvre considérable, mais il n'a pas eu le temps, si vous voulez, de tout publier. Il légua à la ville de Bologne son musée de spécimens biologiques classés selon son propre système. Et quand j'ai été à un grand congrès à Bologne, on a pu voir ces premiers bocaux qui étaient conservés très précieusement par les gens de Bologne. Alors il a beaucoup contribué, même avec son système, à la taxinomie animale. La classification, tout ça, était important. Auparavant, en 1556, il rédigea aussi un ouvrage sur le statuaire ancien de Rome. Donc, toutes les antiquités de Rome avaient été répertoriées grâce à ses soins. Et comme il y a eu après des destructions, ben, on savait qu'il y avait aussi à Rome telle statue qui maintenant n'existe plus, mais des fois on l'a retrouvée en disant ben, « il a forcément bien vu puisqu'on en a une partie, l'autre a disparu ». Donc ça a beaucoup aidé les spécialistes des antiquités romaines. Alors, j'en reviens maintenant. Alors, ça doit être le suivant. À l'illustre, très illustre même, j'allais dire, Gabriele Fallopio, né à Modène en 1523 et décédé à Padoue en 1562. Si je prends les dates, je voudrais dire, de tous ces médecins, on voit qu'ils ne vivaient quand même pas très longtemps. Qui fut à la fois médecin et aussi chirurgien, mais encore botaniste, biologiste et naturaliste, et un éminent anatomiste, professeur d'université et prêtre catholique. Il professa d'abord à Ferrare, à la chaire d'anatomie de chirurgie, puis passa à celle de Pise en 1548 et à partir de 1551 à celle de Padoue. où il a pu disséquer, ce qui était très rare à l'époque, jusqu'à 7 cadavres par an. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. C'est une faveur qu'on lui a fait, fort rare. Bon, mais ça a sûrement été bien utile à tous les étudiants. Mais il enseigna aussi la botanique en 1553 à Padoue, dans la première chaire, en même temps, de matière médicale, où on voit que la botanique servait à connaître les plantes utiles à l'exercice de la thérapeutique médicale. Il entreprend des recherches sur l'anatomie des nerfs crâniens et surtout sur l'appareil génital féminin, d'où le nom laissé aux trompes dit de Fallope. Voilà pour vous, mesdames, savoir dans l'intérieur de votre corps qu'on a laissé le nom. Mais c'était quand même utile de connaître tout ça. Mais vénérant son maître André Vézal, il sut corriger avec déférence les diverses fautes de ses écrits et il reste le premier à élucider l'anatomie de l'embryon humain. Dans le De Morbo Gallico, toujours la fameuse maladie, n'est-ce pas, il décrit une sorte de fourreau d'étoffe. Vous allez voir, c'est important, comme quoi on a vite fait aussi de se tromper. Alors, il décrit une sorte de fourreau d'étoffe légère dont certains ont cru y voir un préservatif. Mais c'était surtout un moyen d'appliquer un remède après une relation suspecte. C'est-à-dire, si quelqu'un avait une relation suspecte, il mettait dans le fourreau des médicaments adéquats et il mettait sur son noble instrument. Mais ce n'était pas à l'envers pour se protéger. Mais ça a peut-être donné l'idée à certains. Parce que la bataille pour les condoms, il y aurait de quoi vous faire une conférence d'une heure et demie, mais je serais obligé de vérifier les dates de naissance des uns et des autres. Il décède jeune à 39 ans. Vous vous rendez compte, il est décédé à 39 ans. Et repose dans un cloître attenant à la basilique Saint-Antoine de Padoue. Ce qui me permet de vous redire l'importance de cette université où les marques ou armoiries de nombreux étudiants ont laissé leurs traces dans l'université. Alors, il y en a une qui est très très célèbre, qu'on courait tous pour aller voir où elle était, c'est celle qui est à la droite, c'est celle d'Harvey, l'homme qui a décrit de façon absolument parfaite la circulation dans le corps complet, entre le cœur, les membres, etc. Donc Harvey a laissé trace de son passage, et là vous avez la cour de l'université de Padoue, et puis au premier étage, vous avez encore des traces d'étudiants, c'était la coutume à l'époque, et grâce à ça, on sait qu'Harvey est passé dans cette cour qui est un haut lieu universitaire italien, mais j'allais dire européen, parce qu'il parcourait, il y a des tas des Suisses, il faut voir, quand on peut regarder les catalogues d'enregistrement des étudiants, ça venait de tous les coins de l'Europe. Alors nous avons de la chance en poursuivant avec le successeur de Gabriel Fallopio à la chaire de chirurgie, c'est-à-dire Jérôme Fabrice d'Aquapendent. Alors, en italien, Girolamo Fabrizi, 1533-1618. Alors, je m'excuse, il y a de la petite trace, mais ça disparaîtra. Mais le portrait est très très beau. Et vous avez le fameux amphithéâtre dans lequel nous allons encore, et c'est très impressionnant, avec la table en marbre qui a de quoi faire... reprendre les écoulements et tout, puis tout ça c'était très étudié et les dissections se passaient là. Alors les dates d'Aquapenden, grand chirurgien, 1533-1619. Mais c'était aussi un anatomiste très distingué de l'université de Padoue, s'occupant surtout des diverses fonctions musculaires, complétées par des études d'anatomie comparées. Le célèbre amphithéâtre, qui lui doit beaucoup, et lui a permis des études et de professer d'une façon remarquable. Il sera le professeur du fameux William Harvey, entre autres. Harvey, ses dates, c'est 1578, donc il est arrivé à Padoue assez beaucoup plus âgé, et il est mort en 1657. Il sera épaulé par son maître pour ses recherches sur la circulation du sang. Donc, quand notre Fallope faisait des études, Harvey venait aussi l'aider, en particulier sur les études sur la circulation. Et Fabrice d'Aquamendem, pareil, étudiera les valvules des veines. C'est lui le premier qui a décrit les valvules des veines dans son traité De Venarum Ostiolis, expliquant qu'il y avait des petits ralentisseurs dans les veines pour qu'il n'y ait pas de la possibilité de reflux et autres. Mais il n'entrevoit pas l'idée de la grande circulation qui reviendra donc à son, j'allais dire, celui qui l'écoutait, William Harvey. Il sera inventé bien des appareils de contention et de prothèses. Alors là, je vais vous montrer son génie. Alors là, vous avez le fameux amphithéâtre de Padoue, hein, qui est quand même, quand on est en haut, c'est assez impressionnant, mais vous voyez bien, si on va à Padoue, il faut essayer de voir ça. Et voici ensuite les travaux, quelques travaux de Jérôme Fabrice d'Aquabenden dans son livre de chirurgie. Alors là, vous avez par exemple des spéculums avec des fenêtres. Là, par exemple, dans la figure du milieu, vers le bas, vous avez des fenêtres sur le spéculum parce qu'il passait à travers le spéculum qui était installé, par exemple, dans l'anus, et s'il y avait des zones d'hémorroïdes ou de tumeurs qui pouvaient être brûlées par les fers, et sans brûler ce qui était ça, il mettait la partie fenêtrée vis-à-vis d'une partie malade. Et c'était très astucieux. Ensuite, vous avez des écarteurs que vous voyez, puis par exemple, en bas, un spéculum qui pouvait se maintenir avec un système à vis. Et puis vous avez les parties qu'on mettait dans le feu, et les chirurgiens de l'époque savaient lire à peu près si c'était très chauffé à blanc, savaient que ça allait être très fort, s'ils mettaient dans le rouge, c'était un peu moins fort. Ils savaient vraiment utiliser ça. Et là, vous avez des tas d'éléments de contention qu'on en fait un espèce d'être humain. S'il y avait des fractures des jambes, des bras, des luxations, tout ça, c'était quand même assez génial, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de choses. Alors, il a essayé, en dehors de ses travaux anatomiques aussi, sur la formation du fœtus, des œuvres chirurgicales qui vont être diffusées dans toute l'Europe avec les illustrations. Alors après, on va avancer tranquillement. Nous avons un autre grand personnage italien, Gaspare Tagliacozzi, né en 1545 à Tagliacozzi et décédé en 1599 à Bologne. De son vrai nom, il s'appelait, alors c'est Gaspare Trigambe, ça veut dire les trois jambes, hein, je suis en Trigambe. Les trois jambes, Gaspare les trois jambes. Nous abordons alors là le grand précurseur de la chirurgie réparatrice et esthétique de la face, dont son livre remarquable, De Curtorum Chirurgia per Incisionem, édité à Venise en 1597 par Gaspar Bignoni, le jeune, et cela entraîna aussitôt une copie par le vénitien Roberto Meietti, mais sans prévenir celui qui avait, coutumier des plagiats, ça avait été très vite repéré, qui fut sévèrement d'ailleurs condamné. Alors maintenant, quand on trouve le livre qui a été l'imitation, parce que ça a été pilonné et tout ça, ben on se retrouve des fois avec un exemplaire tellement rare qu'il est plus cher que l'original. Bon, mais cette rhinoplastie, qui portait le nom de greffe italienne, ah oui, quand on se servait, si vous voulez, voyez, d'un morceau du bras, qui on pouvait prendre le bras pour. Alors, ils étaient bloqués et on faisait que ça prenne, et c'est grâce à ça qu'ils pouvaient réparer des nez. Cette greffe italienne a été très astucieuse et a inspiré bien des médecins par la suite. Et qui a encore servi pour bien des gueules cassées. À la guerre de 14, ils sont encore servis de la méthode, lors de la Première Guerre mondiale, puis ensuite beaucoup moins. Dès 1570, succédant à César Rancius, il fut le digne titulaire de la chaire d'anatomie et de chirurgie à Bologne. Et son mérite est tel qu'il figure dans la fameuse Bibliotheca Chirurgica du Genevois Jean-Jacques Manget. Alors Manget avait rassemblé tout ce qui était important en chirurgie, et vous voyez, dans son ouvrage que vous voyez manger là, du 17e, on voit la méthode italienne sur la partie droite de cette très belle gravure. Voilà. Alors c'est quand même intéressant parce qu'il a été jugé comme un homme important. Alors là, je vais encore évoquer un autre médecin qui est né en 1550 et décédé en 1630, Fortunato Fedeli. Il s'avère en fait l'un des précurseurs essentiels de la médecine légale. Il a eu pour maître le célèbre médecin anatomiste sicilien Giovanni Filippo Ingrassia, 1510-1589. Lui aussi ancien élève de Padoue, qui découvrira, alors c'est en fait très important sur ce plan-là, le minuscule osselet de l'oreille interne, et avec ce qu'on appelle l'étrier, qui est dans le milieu, vous voyez, l'étrier, l'enclume, etc. S'il n'y avait pas d'étrier, toutes les vibrations que l'oreille recevait ne pouvaient pas être recaptées par le nerf auditif et réintégrées par le cerveau. C'est très important. Et ça, c'est une découverte primordiale que d'avoir découvert le rôle de l'étrier. Alors, notre Fedeli a su reconnaître à Palerme un saturnisme, donc le sévisme du plomb, d'origine hydrique. Il s'est dit, dans cette eau, il y a du plomb, et les gens étaient malades, et il a su tout de suite avertir qu'il ne fallait pas prendre de cette eau. Sa publication en 4 livres en 1602 à Palerme, De Relationibus Medicorum, avec ses notes démonstratives, en fait bien le premier traité de médecine judiciaire. Vous voyez, aussi bien, un peu comme dans la médecine du travail, mais vous savez, j'ai le souvenir que le fameux colonel Arnoux, qui avait sévi après la guerre d'Algérie, qui était l'un des colonels rebelles, était rentré après la prison chez lui et tout ça, puis il avait une fort belle vieille maison ancienne que lui avait laissée sa famille. Puis il a voulu repeindre dans sa salle à manger, donc il s'est mis à grader tout ça. Or, c'était une peinture au plomb. Et c'est un des derniers qui a fait un authentique... on se demandait pourquoi il avait la storde, le ventre, etc. Et en faisant des recherches plus poussées dans le sang, ils ont fini par découvrir qu'il faisait un saturnisme. Donc maintenant, on protège tous les ouvriers quand ils doivent travailler sur certaines peintures anciennes où ils ont des masques, mais même des fois, ils sont enfermés pour pouvoir respirer un air sain pendant les travaux. Alors maintenant, nous poursuivons avec le fameux Scipion. N'a nullement un maître espion. Oui, mais attends, je vais y venir, parce que c'est pas tout de suite que je vais tout dire. Je vous parle un peu de Scipion, mais c'est Scipion Mercurio, c'est-à-dire Mercuriale pour Nice. 1530-1606. Véritable interniste, au savoir considérable, mais aussi devenu professeur de logique et de mathématiques. Il a fait ses études à Bologne et à Padoue, pris le nom de Girolamo chez les Dominicains du couvent de Sant'Eustorgio à Milan, devenant Don Girolamo Mercurio. Donc il est prêtre, et moine. Très sollicité dans le gymnasium de Padoue, où il y enseignera 18 ans. Alors là, vous allez le voir. Voilà, le fameux Jérôme Mercurial. Alors vous avez un des livres qu'il a fait. Alors, quand ils disent Libri Sex, c'est les 6 gros chapitres essentiels de ses livres en latin. Hein, Libri Sex, ce n'est pas en 6 livres. Et là, c'est dans le livre, il y a 6 chapitres importants. Donc là, vous avez une édition qui est très belle, d'ailleurs. Alors, il a enseigné une édition. Il finit par s'enfuir du cloître, carrément, pour parcourir le monde et ne retourne en Italie qu'en 1573. D'ailleurs, fort bien accueilli par le pape et le Sénat de Venise, qui dirige alors Padoue. Mais Venise a toujours, de plus ou moins, eu la main sur Padoue. Et à nouveau, le voilà sur les routes de toute l'Europe, étudiant, observant et notant. On repère son passage en 1590 dans le sud de la France. Revenu en Italie, qu'il parcourt à nouveau, il finit par bénéficier d'une permission papale spéciale pour pratiquer son art en cas de nécessité en dehors de la religion. Donc s'il y avait vraiment besoin de lui, il pouvait exercer. Édité à Venise sont comme Mario, alors là en italien c'est assez difficile à prononcer, mais je peux le donner, c'est son livre d'obstétrique, hein, on l'a de ce côté-là, Ragoglissitré par Scipion Mercurio en 3 livres, fameux livre d'obstétrique, réédité 8 fois en italien et 2 fois en allemand. Alors les Allemands ne perdaient pas, alors attendez, je crois que je vais vous le montrer après. Voilà, on doit l'avoir ici, une partie, et vous avez un portrait de Mercurial, et puis on voit très bien qu'il s'est occupé d'obstétrique, puisqu'il montre un utérus qui a été ouvert, c'est un utérus ouvert, voilà. Mais il est l'auteur de bien d'autres traités, tous édités à Venise, dont le De Re, alors pour ça il a été très célèbre, De Re Gymnastica Veterum. Alors, et le De Morbis Cutaneis, premier traité de dermatologie. Là, il ne s'occupait pas du De Morbo Gallito en disant la vérole fait telle trace. Il s'occupe là de toutes les maladies cutanées qu'il avait pu observer. Et alors, aussi, dans un De Puerum Morbis, il étudie déjà les troubles psychiatriques de l'enfant. Et il finit par rassembler avec commentaires en langue grecque et latine, toutes les œuvres d'Hippocrate. Alors ça, c'est ce que je vous ai mis à droite, ici. Là, il y a toutes les œuvres d'Hippocrate. C'est un livre qu'il a édité en 1588, qu'il a fait chez les fameux imprimeurs, les Juntes, très célèbres, ayant puisé dans les manuscrits du Vatican, cherchant à attribuer les écrits spécifiques du maître de Cos par son seul style. C'est-à-dire, il s'est dit, tiens, comment différencier les écrits qui viennent d'Hippocrate vraiment de ceux... Alors, ça a beaucoup contribué à faire ce qu'on fait maintenant. Par exemple, dans les Belles-Lettres, on publie de façon successive, quand c'est prêt, les travaux qu'a fait Jacques Jouanna sur les... Il a traduit tout Hippocrate, mais page par page, il vérifie tout, il voit qui a fait quoi, etc. Alors, ça a été quand même un maître, si vous voulez, sur l'étude d'Hippocrate, absolument. Par contre, le procédé qu'il utilisait pour retrouver par le style a été réfuté par le grand Émile Littré, mais il faut reconnaître que même Littré s'en est servi de temps en temps en disant « là, bon, c'est normal ». Alors maintenant, avec un autre... médecin et botaniste qui s'appelle Prosper Alpini, qui est né à Marostica dans la République de Venise en 1553 et qui décédera à Padoue en 1617, on rencontre ici un rare médecin des armées du duché de Milan. Ayant fait ses études de médecine à Padoue, il obtiendra le doctorat en 1578. Alors je crois avoir quelque chose pour vous là, voilà. On a un portrait de là, et puis les plantes, etc. Il a fait beaucoup de travaux. Alors, il avait donc obtenu son doctorat en 1578. Il avait un goût prononcé pour la botanique, et en particulier les plantes exotiques. Il avait volontiers suivi le consul de Venise, au Caire. Ce consul s'appelait Giorgio Emo. Il l'a suivi comme médecin personnel en 1580. Dès l'arrivée au Caire, il est témoin de l'épidémie terrible de peste qui fera un demi-million de morts. Il y séjourne cependant, il ne s'enfuit pas, 3 ans et fait des observations tout à fait judicieuses sur les cultures de plantes et d'arbres, en particulier la reproduction des palmiers dattiers. Il devient quelques courts moments le médecin du génois Giovanni Andrea Doria, amiral de la flotte génoise. Mais en 1593, il obtient la chaire d'étude des simples, c'est-à-dire les plantes médicinales. Là, on commençait à vraiment séparer l'étude de la botanique pure par celle uniquement des plantes repérées comme médicinales. Et il restera d'ailleurs jusqu'à sa mort en 1617 à Gênes. Il a succédé à Giacomo Cortuzzo en 1603 à la tête du jardin botanique de la ville aussi de Padoue. Il avait un poste aussi à côté. Alors, son ouvrage « Des plantis aegypti » imprimé à Venise en 1500,